France Inter. Nicolas Desmorand. Le 7-9.
Mercredi 23 janvier, bonjour à tous, bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, alerte neige et verglas dans 29 départements, plan grand froid pour les sans-abri, transport scolaire suspendu, l'hiver est arrivé. Les autres titres, Agnès.
À Davos, les patrons saoudiens et suisses analysent le mouvement des gilets jaunes. Combien va coûter à Renault la sortie de route de Carlos Ghosn? Le bouleversant appel à l'aide du footballeur argentin porté disparu au-dessus de la Manche. Luc Apouille actuellement en quart de finale de l'Open de tennis d'Australie et puis l'univers hospitalier qui ne cesse d'inspirer les réalisateurs avec la sortie aujourd'hui de l'Ordre des médecins.
Les invités de France Inter ce matin avec vous, Madame Salamé, à 7h50.
Bien, je vous propose, Nicolas, Agnès et surtout à vous, auditeurs, un moment de douceur et de poésie dans cette actualité bien chargée. Avant son concert mardi prochain au studio 104 de la Maison de la Radio, il vient fêter avec nous la sortie de son nouvel album L'Être Infini et il nous a promis de venir avec une guitare. C'est Mathieu Chédid qui sera là à 7h50.
Moment de douceur, à tout à l'heure Léa. À 8h20, alors que démarre à l'Assemblée nationale l'examen de la loi anti-casseurs promise par Édouard Philippe, la ministre de la Justice Nicole Belloubet est l'invitée du grand entretien de la matinale. Le standard est ouvert, vous le savez, dès 7h 01 45 24 7000 pour toutes vos questions.
France Inter.
Et on commence d'abord avec ces difficultés de circulation dans le nord de la France, notamment les autoroutes qui sont ce matin difficilement praticables dans le secteur d'Amiens et de Boulogne-sur-Mer. Difficultés de circulation également dans l'agglomération lilloise. La situation est difficile avec 13 cm de neige. Emma Sarango.
La cité des Dames, c'est d'abord cette grande...
Emma Sarango, pour les difficultés de circulation à Lille ce matin.
On va la retrouver peut-être à l'heure. Non.
Emma Sarango, non.
Non.
Emma Sarango.
Voilà.
La 16 d'abord entre Calais et Abbeville dans la Somme. Les camions de plus de 3,5 tonnes ont donc interdiction de circuler dans les deux sens de la 16. Une aire de stockage a donc été mise en place ce matin. Les poids lourds sont obligés de s'arrêter au niveau d'Étaples. Restriction également sur l'autoroute A1 dans le sens Paris-Lille uniquement cette fois. Concernant les voitures, aucun axe n'est pour l'instant coupé. Mais les limitations de vitesse sont toujours en vigueur jusque midi sur les autoroutes et les deux fois deux voies. Les trains maintenant. Trafic fortement perturbé, nous dit la SNCF, notamment parce que les conducteurs et les contrôleurs sont eux-mêmes bloqués et empêchés de prendre leur service. Et puis, du côté des transports en commun, aucun bus n'est sorti ce matin des dépôts dans la plupart des agglomérations nordistes, que ce soit à Douai, à Arras ou à Lille. En revanche, le métro et le tram fonctionnent normalement dans la métropole lilloise. Et puis, je vous rappelle que les transports scolaires sont suspendus ce mercredi dans l'ensemble des deux départements Nord et Pas-de-Calais.
Pas de transport scolaire effectivement dans de nombreux départements ce matin en Seine-et-Marne, en Saône-et-Loire, dans la Nièvre et Lyon, les Ardennes, la Marne, les Hauts-de-France, en Bourgogne-Franche-Comté. Pas de bus ce matin dans l'agglomération de Nevers, des restrictions de circulation également dans les Pyrénées-Orientales où les équipements spéciaux sont obligatoires pour franchir certains cols. 4 départements des Pyrénées sont d'ailleurs en vigilance avalanche. Point route complet à la fin de ce journal. Des averses de neige, un vent glacial et des températures qui dépasseront difficilement 0 degré dans le nord et l'est de la France. Situation insupportable pour les sans-abri, d'où la mobilisation des pouvoirs publics. 22 départements ce matin activé le plan grand froid. À Paris, les femmes seules et sans-abri ont désormais un lieu d'accueil joliment appelé la Cité des Dames dans le 13e arrondissement. Et fait exceptionnel, Rémi Brancato, c'est un lieu ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
La Cité des Dames, c'est d'abord cette grande pièce, un accueil ouvert sur la rue pour boire un café, manger dans un fauteuil, ou bien laver son linge. Et une fois passé un couloir, il y a cet espace de 25 couchettes. Jour et nuit, les femmes se reposent sans aucun homme. C'est fondamental pour Nadège Passereau, déléguée générale de l'ADSF, l'association pour le développement de la santé des femmes qui a ouvert ce lieu avec l'Armée du Salut.
La volonté de la non-mixité, c'est qu'elles peuvent, sans problème d'intimité, traverser, être un peu dévêtues, c'est bien pensé.
C'est aussi un gage de sécurité pour Odile.
Il n'y a pas de menace ici, on est tous des femmes, ça me rassure.
Car ces femmes préfèrent bien souvent se cacher, Mazeguela vivait dans le métro notamment.
J'ai pas demandé de la tuer.
connais cette personne, c'est ici que j'ai eu une famille.
Alors ici, ces femmes invisibles ont accès à des sages-femmes, des psychologues, des travailleurs sociaux, un début d'accompagnement rare pour Christophe Piedra de l'Armée du Salut.
L'idée, c'est qu'il y ait une rencontre qui soit faite avec le travailleur social, au moins pour faire une évaluation, c'est-à-dire rendre visibles ces femmes qui échappent un peu au radar des travailleurs sociaux. On peut renouer quelque chose avec elles.
Il y a aussi 6 lits passerelles pour un accompagnement encore plus rapide vers un hébergement durable. Les 50 places de la Cité des Dames, elles, sont toutes occupées. Démonstration criante du manque de structures dédiées aux femmes.
Reportage signé Rémi Brancato.
Il est 7h06, Agnès. Le Forum économique mondial de Davos.
Ou quand les grands patrons du monde entier n'hésitent pas à livrer leur analyse du mouvement des Gilets jaunes. La crise sociale qui secoue la France depuis 2 mois, un folklore bien français pour certains. Reportage signé Delphine Simon.
On les appelle Yellow Vests ou Yellow Jackets. Les images des Gilets jaunes illustrent des conférences à Davos sur les risques pour la croissance. Quel contraste un an après la venue d'Emmanuel Macron, relève ce financier indien.
C'est désolant ce qui s'est passé à Paris et en France. Macron a fait naître de grands espoirs à son arrivée au pouvoir, mais je suis sûr que Macron est toujours dans le jeu et j'espère qu'il ramènera la confiance en France.
Du folklore pour cet investisseur suisse.
Il y a 20 ans en arrière, il mettait des bombes dans des poubelles et maintenant il casse des magasins. Puis les gens vont oublier tout ça. Enfin, c'est la France, quoi. C'est du folklore.
Alors il est temps de retourner aux affaires, affirme cet entrepreneur saoudien.
Au début, le mouvement des Gilets jaunes était une prise de position. Et tout le monde l'a entendu. Maintenant, il faut qu'ils retournent au travail. Il faut que les Français apprennent à avoir le courage de travailler, comme tout le monde.
Pourtant, ce signal des laissés pour compte de la mondialisation, les dirigeants du monde entier devraient l'écouter, explique la présidente de la Fédération des syndicats Uni Global Union, Christy Hoffmann.
La création des jobs dans les derniers 10 ans sont les jobs précaires, des salaires très bas. Alors ça, c'est pas juste. C'est l'heure d'avoir un contrat social 4.0.
À Davos, Delphine Simon, France Inter.
Davos, site stratégique pour les lobbyistes de tout poil, et l'on apprend ce matin que le budget lobbying de Google a battu des records l'an dernier, notamment le lobbying politique auprès des membres du Congrès américain, en tout plus de 18 millions d'euros dépensés en 2018 à Washington. Loin de Davos, le grand débat national se poursuit, Emmanuel Macron sera finalement demain dans la Drôme pour un déjeuner-débat à Valence avec une 60aine d'élus de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont Laurent Wauquiez. Et alors que certains préparent l'acte 11 du mouvement, le ministre de l'Intérieur a annoncé hier que les forces de sécurité qui utilisent des lanceurs de balles de défense, les LBD, seront dès samedi prochain systématiquement équipées de caméras piétons pour filmer le contexte d'utilisation de ces armes. Une exigence de transparence et d'exemplarité, a dit Christophe Castaner, dont les services ont recensé 4 personnes gravement blessées à l'œil par ces balles depuis le 17 novembre dernier. Demain, ce sera l'heure des comptes pour Renault. Le conseil d'administration du constructeur automobile français devrait officiellement acter la sortie de route de Carlos Ghosn derrière les barreaux au Japon depuis 2 mois. Un départ qui pourrait coûter cher, car PDG débarqué coupable ou non, c'est rarement gratuit. Maxime Debs.
De 5 à 15 millions d'euros, c'est à la louche, selon les experts, la somme à laquelle pourrait prétendre théoriquement Carlos Ghosn, mais ces estimations varient, car en réalité, le problème, c'est que la fiche de paye de Carlos Ghosn est un peu complexe. Il y a certes son salaire annuel fixe, 1 million d'euros, mais c'est surtout en matière de bonus que ça se complique. Une grosse partie de sa rémunération, 75%, lui est versée, non pas cash, mais en actions, de façon différée, en fonction des performances. C'est là la difficulté. Carlos Ghosn peut-il revendiquer ces sommes qui devaient lui échoir par ailleurs jusqu'en 2022, date de la fin de son mandat? Quid également de ses droits à la retraite après 14 ans chez Renault? La pension de Carlos Ghosn pourrait s'élever en théorie là encore à plus de 60 000 euros par mois. Côté syndical, c'est peu de dire que le dossier est explosif, de la dynamite même pour un élu du personnel habituellement modéré, surtout que syndicats et direction doivent se retrouver la semaine prochaine pour évoquer la question des salaires. Mais cette fois, pour l'ensemble des effectifs de Renault.
Et l'hypothèse d'un tandem Thierry Bolloré-Jean-Dominique Sénard semble se confirmer pour succéder à Carlos Ghosn.
Il est 7h09, Agnès. Émotion en France et en Argentine après la disparition du footballeur Emiliano Sala.
Les recherches doivent reprendre ce matin au large de Guernesey, mais les chances de retrouver le petit avion qui transportait le jeune footballeur sont quasiment nulles. L'appareil a disparu dans la nuit de lundi à mardi. Le jeune homme venait de saluer ses coéquipiers du FC Nantes et partait pour une nouvelle aventure, une nouvelle carrière à Cardiff au Pays de Galles. Une belle ascension pour ce garçon né dans un petit village à 500 km de Buenos Aires et arrivé en France à l'âge de 15 ans. Reportage en Argentine de Caroline Vic.
Progreso, le village de 3000 habitants où Emiliano Sala a grandi, a fait ses débuts et où sa famille habite toujours, a été envahi par les journalistes. Un village en état de choc. Les voisins et les proches du joueur parlent d'un jeune homme agréable, humble et timide. La dernière conversation avec sa famille date de dimanche. Horacio Sala, le papa d'Emiliano.
Il était très content parce qu'il allait dans un club plus grand, il allait bien. Moi je ne sais rien, personne ne m'a appelé d'Europe. Les heures passent et je commence à penser au pire.
Une préoccupation qui grandit notamment après la diffusion d'un message audio de WhatsApp envoyé par Emiliano à un ami alors qu'il était dans l'avion.
Là je suis dans l'avion et on dirait qu'il est en train de tomber en morceaux. Si dans une heure et demie vous n'avez pas de mes nouvelles, je ne sais pas s'ils vont envoyer quelqu'un pour me chercher parce qu'ils ne vont pas me retrouver. Au moins vous le saurez. Qu'est-ce que j'ai peur.
Le manque de nouvelles rend l'attente insupportable, mais laisse encore place à l'espoir. Les proches espèrent maintenant un miracle et attendent les résultats des recherches aujourd'hui dans le canal de la Manche. À Buenos Aires, Caroline Vic pour France Inter.
Le calvaire de Monaco se poursuit. Avant-dernier en Ligue 1, le club a été éliminé en 16e de finale de la Coupe de France hier soir, battu à domicile par un club de Ligue 2. Metz s'est donc imposé 3-1. Du football au tennis avec le vaillant Lucas Pouille, dernier français en lice à l'Open d'Australie. Lucas Pouille qui affronte en ce moment à Melbourne en quart de finale le Canadien Milos Raonic et Fabrice Abral. Hein, Lucas Pouille en grande forme.
Ah, c'est moins qu'on puisse dire, en effet. Lucas Pouille mène 2-7-0 face à Milos Raonic, en effet, puisque Lucas Pouille a remporté les deux premières manches 7-6 et 6-3, c'est-à-dire qu'il n'est plus qu'à 1-7 de la demi-finale. Alors évidemment, on n'en est pas encore là, mais sur ce qu'il montre actuellement, Lucas Pouille est vraiment très bien parti. Il est extrêmement solide face à Milos Raonic et c'est une véritable performance qu'il en soit déjà là, puisque en trois confrontations avant cette Open d'Australie, eh bien, Lucas Pouille avait toujours perdu face à Milos Raonic et surtout, il n'avait jamais réussi à prendre le moindre 7 au Canadien. Et bien là il en a pris 2, c'est-à-dire qu'il n'est plus qu'à un 7 de la demi-finale, devenir le 7e français à atteindre les demi-finales ici à l'Open d'Australie.
Merci Fabrice Abgral et à tout à l'heure bien sûr. Et puis ce matin, Serena Williams a quitté Melbourne malgré 4 balles de match. L'américaine s'est inclinée face à la Tchèque Karolina Pliskova.
Et enfin, dans la série des films ou des séries sur l'hôpital, voici L'Ordre des médecins qui sort aujourd'hui au cinéma.
Avec Jérémy Régnier, jeune pneumologue confronté à la maladie de sa mère, jouée par Marthe Keller, qui vient mourir dans l'hôpital où il travaille. Un film signé David Roux, un film en grande partie autobiographique. Véronique Julia.
Beaucoup plus qu'un film sur l'hôpital, c'est un film sur la douleur pour un fils de voir sa maman arriver en fin de vie. Comprendre qu'on ne peut plus rien pour elle, qu'elle-même se sait condamnée et ne veut pas s'acharner. Sauf qu'ici, le fils Simon est médecin, pneumologue, une blouse blanche qui en impose, habitué à établir des diagnostics, à les annoncer aux patients, à se battre pour eux quand ça vaut le coup, mais à ne pas leur donner de faux espoirs. Quand sa maman arrive un jour en catastrophe, toute cette solidité s'effondre. Simon passe de l'autre côté du miroir.
Ma mère est en réa. Ça fait 2 jours. Un vieux cancer des ovaires. Ça va ? Pas trop épuisé ?
Voilà, on va mettre le garrot.
Au chevet de sa mère, Simon espère. Et puis il comprend et capitule. Il va enfin se donner le temps, après 2 ans sans avoir pris de vacances, d'accompagner sa mère jusqu'au bout.
Il n'a pas cessé de faiblir depuis plusieurs jours. Et là, la dégradation s'accélère. Vous comprenez ce que ça signifie ?
J'ai peur. J'ai tellement peur.
Ce joli film questionne sur le discours, l'attitude à avoir face aux malades et à ses proches. Il montre que les médecins, malgré tout l'espoir qu'on place en eux, ne sont pas infaillibles. Et surtout que la blouse blanche ne protège pas des émotions. À la toute fin, Simon s'autorise enfin à fondre en larmes. L'ordre des médecins est en somme rattrapé par l'ordre des choses.
Et L'Ordre des médecins sort aujourd'hui sur les écrans.
Merci Agnès Soubiran.